Ce n'est pas à l'hôpital, mais dans un café, que les Street ont rencontré Martin, médecin à la permanence d'accès aux soins, la PASS, de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. Accueillir, écouter et prodiguer des soins aux personnes en situation de grande précarité, un sacerdoce humaniste qui méritait une mise en lumière.
Nous sommes toujours donc avec la PASS, donc le prénom c'est déjà...
Martin,
pardon. Donc, qui est médecin, donc à Saint-Joseph. Voilà, donc maintenant...
C'est ça.
Il va pouvoir s'appesantir un peu plus sur donc, le projet de la PASS. On va dire un peu plus, voilà, un peu, de manière un peu plus étoffée que les questions tout à l'heure.
Oui, donc pour revenir sur
la PASS, oui, qu'est-ce que c'est ?
La PASS, donc c'est pas une association, pour rebondir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un service public, un service qui est rattaché aux hôpitaux de façon systématique en France. Qui existe parce que ça a été créé à l'issue d'une loi qui date quand même de 98.
C'est pas
tout jeune, pour offrir des soins gratuits aux personnes qui sont en difficulté d'accès aux soins. Initialement, les personnes qui n'avaient pas d'assurance maladie. D'accord. Ensuite, quand il y a eu la création de la CMU, les personnes qui ne répondaient pas aux critères pour entrer dans la CMU, les personnes qui n'ont pas pu faire leur démarche.
D'accord. Donc là, au niveau public, ce n'est pas essentiellement que du SDF, pas de personnes. Ça peut être des gens en grande précarité, qui ont un logement, mais qui ont des...
Il y a des gens, c'est quasiment... Bon alors, 100% des personnes sont en situation de précarité. On ne consulte pas dans une PASS parce que si on n'est pas en situation de précarité, voire même de grande précarité. La majorité des personnes n'ont pas de logement. Et dans ces personnes-là, une bonne part... Je ne sais pas, je n'ai pas de chiffre précis en tête, mais je dirais que peut-être la moitié a un hébergement de type foyer.
Ils ont un logement.
Sont logement, pas ça un logement, c'est pas un chez-soi, par contre c'est un hébergement. Et puis par contre, une grande partie aussi qui est sans abri, sans hébergement, qui dort à la rue, en campement, en habitat extrêmement précaire. Donc c'est ce public-là. Le public de la PASS à Saint-Jo a pas mal évolué au cours des dernières années aussi avec les situations en fait, sociétales actuelles, avec de plus en plus de personnes qui sont des personnes exilées, qui sont migrantes, qui sont arrivées sur le territoire français pour certaines il y a vraiment peu de temps. Donc on voit tous les jours des personnes qui sont arrivées il y a quelques jours, qui ont des problèmes de santé chroniques, graves, besoin de soins de façon urgente, qui ne correspondent pas encore aux critères en fait, pour ouvrir que ce soit une CMU ou une aide médicale d'État, et qui donc relèvent directement du service PASS. Et puis après, il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément concernées par l'exil ou alors qui l'ont été il y a très longtemps, mais qui sont vraiment implantées en France depuis longtemps. Mais qui sont concernés par une forme de grande précarité, mais peut-être sur des enjeux, en fait, des causes, des situations qui sont différentes.
D'accord.
En pratique, il y a plein de profils de personnes et d'histoires différentes.
D'accord. De manière un peu plus concrète, en fait, comment ça se passe ? La personne qui va à la PASS, il y a des horaires, il y a une permanence, c'est ouvert tous les jours
On a 3 jours de permanence par semaine, 3 jours d'ouverture publique, sauf qu'ils correspondent aux jours où il y a des médecins, parce qu'on a besoin d'avoir un arrêt médical si jamais pour réorienter une personne. Donc voilà, c'est lundi, mardi, jeudi, ces 3 jours-là. Et on travaille sinon du lundi au vendredi pour certaines collègues. C'est pas le cas de tout le monde, on est pas mal aussi à temps partiel. C'est pas comme. Enfin, contrairement à ce qu'indique le nom, la permanence d'accès aux soins, c'est pas des vraies permanences. On arrive et on attend et on voit nécessairement un médecin et une assistante sociale. Ça se passe pas comme ça, ça a pu se passer comme ça auparavant. Mais c'est un fonctionnement sur rendez-vous, avec des délais qui sont très longs, mais on essaye quand même toujours d'évaluer le degré d'urgence pour voir si on peut pas trouver un rendez-vous avant, si on peut pas orienter vers des collègues, que la personne soit plus rapidement.
Et là au niveau des rendez-vous, c'est des rendez-vous directs que la personne prend ou c'est par prescription ? C'est-à-dire l'envoyer par, je sais pas, un accueil de jour ou une...
Les deux. Il y a des gens qui viennent par bouche à oreille. Voilà, ben bah, fois,
voilà.
David
beaucoup l'accompagnement
qui est venu avec un collègue. Tout simplement, des gens qu'on... Ça peut être des gens qui ont été accompagnés dans des passes il y a longtemps parfois, ou parfois leur famille, il y a le bouche à oreille, il y a des gens qui arrivent aux urgences directement et qui sont réadressés par un service d'urgence, des gens qui sont adressés par les partenaires, accueil de jour, les centres d'hébergement, d'autres associations et le SAMU social. Qui fait beaucoup de liens en fait, avec les personnes qui sont à la rue. D'accord.
Là, vous parliez au niveau de l'accueil, donc il y avait la partie médicale, vous avez aussi parlé d'une partie sociale. Alors, vous proposez aussi un accompagnement social ou...
Ouais. L'accompagnement social, il est indispensable, bien que la première porte d'entrée soit médicale. On ne peut pas venir à la PAS sans plainte en termes de santé, sans demande en termes de santé. Par contre, une fois qu'on prend en compte la demande médicale, c'est indissociable en fait de l'accompagnement social, psychosocial, parce que ça fait pas sens selon moi en tout cas, d'accompagner quelqu'un pour sa santé sans prendre la situation dans sa globalité, sachant que la plupart des personnes qu'on accompagne sont concernées par une souffrance psychique qui vient se mêler...
J'allais en parler, oui.
Voilà, qui vient souvent se mêler à la maladie, alors qui peut entraîner des défauts d'observance du traitement, de compréhension de la pathologie, qui peuvent aggraver des douleurs déjà présentes à cause du stress, et toutes ces raisons-là, en fait.
D'accord. Donc, au niveau psychique, vous avez des psychologues, vous êtes en lien avec le Vinatier
On est en lien avec le Vinatier, on est avec des partenaires en fait, mais malheureusement on n'a pas de psychologue. Peut-être un jour ça viendra. On n'a pas de psychologue directement, du professionnel de santé mentale, on va dire, au sens large, à la PAS. Après, on est très en lien avec le Vinatier, on a le psychiatre du Vinatier qui maintenant vient faire des permanences une fois par mois pour essayer de fluidifier un peu la connexion entre Saint-Jean et le Vinatier, qui sont quand même extrêmement loin dans Lyon.
Il y a quelqu'un quand même qui vient faire le lien.
Ouais, maintenant.
C'est important, c'est bien.
C'est tout récent, mais on a un collègue psychiatre de la PAS du Vinatier qui vient une demi-journée par mois. Enfin, c'est un peu à l'essai, mais pour que le lien se fasse plus facilement. Parce que souvent, on adresse des gens au Vinatier, ils se perdent un peu en route. Ça arrive. Et puis il y a aussi le caractère un peu stigmatisant pour certaines personnes du Vinatier, quand on nous parlait, l'hôpital psychiatrique, ce qui n'est pas la même chose, alors que pourtant c'est le même accompagnement, mais si le psychiatre...
Oui, c'est connoté. Déjà,
c'est connoté, voilà. Exactement.
D'accord. Et là au niveau, on va dire pas au niveau population, je veux dire, vous avez un nombre important de personnes qui vient ou ça reste encore confidentiel, on va dire?
On a beaucoup plus de personnes qui viennent que de disponibilité.
D'accord.
Je pense pas que ça reste confidentiel. Après, on peut, si on creuse un peu ce mot-là, dans un sens oui, parce qu'il y a énormément de personnes à Lyon qui sont en totale méconnaissance de dispositifs existants pour la santé et ou pour le social et qui connaissent pas leurs droits. Et c'est aussi pour ça qu'on a une activité d'aller vers les personnes, une activité mobile. On fait pas que de la consultation, on va aussi à la rue.
D'accord.
Oui. Alors justement, donc vous allez à la rue, dans les accueils, le jour aussi, il y a des permanences.
Ouais, on a différents sites d'intervention, si on peut appeler ça d'intervention, mais qui sont les accueils de jour, la rue, en partenariat quasi systématique avec le SAMU social, pour faire un lien. Assez souvent, les personnes qui sont à la rue sont d'autant plus éloignées du soin et d'autant moins en demande. Donc le lien se fait plus facilement avec le SAMU social. Et après, il y a aussi les squats et toutes les formes d'habitat précaire, les bidonvilles, les campements, les personnes en tente.
D'accord.
Et puis il y a aussi certains centres d'hébergement. Il y a beaucoup de personnes, on va faire des permanences là-bas.
D'accord.
L'idée, c'est d'y aller régulièrement avec toujours le même binôme ou trinôme. que ce soit les mêmes professionnels qui puissent être repérés, pour qu'il y ait un lien qui se fasse, en ayant confiance, parce que c'est le principal objectif. Okay. C'est pas de soigner les gens sur place, mais c'est de, c'est de créer ce lien pour pouvoir éventuellement les recevoir à la place si elles le souhaitent après.
Là, vous parliez des accueils du jour et puis donc, des autres structures. Elles sont au courant de, du fonctionnement de la PASS, donc elles peuvent aussi vous envoyer des personnes.
Elles peuvent nous envoyer des personnes.
Elles sont toutes, enfin, je veux dire, elles sont guéries, enfin, elles sont au courant de, que ce système-là existe, enfin, que la PASS existe. Donc elles sont, quand je parlais de prescription tout à l'heure, c'était en fait un peu dans ce sens-là. C'était des accueils de jour, je parle, ou d'autres structures qui peuvent aiguiller la personne vers vous.
Elles sont au courant, mais. On part du. Enfin, l'idée, c'est que pour certaines personnes, donner un rendez-vous depuis l'accueil de jour pour qu'elles se rendent à la PASS, s'il n'y a pas d'accompagnement possible, hein, par manque de moyens, et ben ça va pas forcément fonctionner. La PASS, elle est rattachée à l'hôpital. Dans la PASS, il y a des gens qui sont en blouse blanche. Moi, je suis en blouse blanche, bah je consulte. Je fais partie d'une institution hospitalière.
Et dress code.
Il y a un dress code, voilà. Un dress code qui peut rassurer certains et faire peur à d'autres. Et donc, de se déplacer jusqu'à l'accueil de jour pour se présenter, pour sortir un peu de, ce, de cette institution, en tout cas d'apparence, ça peut changer en fait le lien, l'accompagnement, ça peut changer la donne. Et sur le petit à petit, pas à pas, permettre après que.
Instaurer une confiance.
Instaurer une confiance et, voilà, et décaler l'accompagnement plus dans l'institution.
Après, dis-moi. On fait dans un parcours de soins, on va dire.
Exactement. Ouais.
Là, c'est un système d'APAS qui existe depuis donc, quelques années déjà.
À Saint-Jean ou en général?
En général et à Saint-Joseph.
En général, les premières passes, elles datent, je crois, de 1998.
Ah ouais.
Il y a très longtemps. À Lyon, en tout cas à Saint-Jean, ça a d'abord été une équipe mobile exclusivement, qui faisait partie du réseau social Rue Hôpital, qui a dû être créé dans les années 2000. Je vous dis ça très approximativement parce que je n'ai pas la date en tête. Et qui travaillait avec Médecins du Monde, le SAMU Social, Alinéa. L'armée du salut, voilà, en partenariat, et qui s'adressait vraiment au public de la rue. Et puis en 2016, il me semble, les consultations ont été créées, donc avec un système de consultation sur place, entre les murs, pour recevoir les patients en consultation.
D'accord.
Et puis après, en 2020, avec le Covid.
Ouais. Le fameux Covid.
Le fameux Covid, premier confinement. Il y a eu un déploiement en fait des équipes mobiles à Lyon en partenariat surtout avec avec la PASS et Médecins du Monde et un financement ARS en fait qui a eu lieu suite à ça et donc un déploiement d'équipes mobiles aussi dans les squats notamment, ce qui n'était pas le cas avant, qui cible souvent une population plus souvent des populations qui sont exclusivement des personnes exilées. C'était moins le cas, donc du coup un changement un petit peu de public, parce que c'était moins le cas avant.
Ouais, tout à fait, ça a changé les choses. Ok. Et là, donc là on parle de la PASS qui est rattachée à Saint-Joseph. Est-ce que la PASS, et par exemple, si on parle de l'hôpital de Croix-Rousse, Lyon-Sud, est-ce qu'il y a aussi des, on va dire la PASS Croix-Rousse, la PASS Lyon-Sud, ou c'est juste...
Ouais. En fait, il y a la PASS à Lyon, la PASS des HCL.
Ah d'accord.
Croix-Rousse, Lyon-Sud... Édouard Herriot faisant partie des HCL.
Ouais.
Donc il y a une passe à Édouard Herriot, mais il n'y a pas de passe à Lyon-Sud ou à la Corse.
Et c'est pas un projet.
Pas à ma connaissance.
D'accord.
Il y a aussi une passe au Medipôle qui a ouvert il y a à peu près un an et demi.
D'accord.
Et puis après, il y a la passe au Vinatier qui est psychiatrique, mais ouais. Pas que, qui est aussi pas généraliste. Que.
D'accord.
La passe périnate pour les femmes enceintes qui est rattachée à HEH en fait.
La mère enfant ?
Non, c'est rattaché à, il me semble, à Édouard Herriot. Et puis il y a la passe pédiatrique à mère enfant.
D'accord. Ouais, donc c'est un système qui est.
Et les autres passes, ils ont aussi ce côté mobile aussi non ils se déplacent aussi ou...
Non, à ma connaissance, il n'y a que Saint-Jean. Et puis il y a Médecins du Monde aussi, en fait, on a, donc, c'est pas une passe, mais le fonctionnement est un peu le même, hein, un œuf de soins.
C'est un partenariat,
conditionnel, ouais, c'est un partenariat. En fait, on essaye de se mettre d'accord, d'identifier les habitats précaires, donc ça on le fait en partenariat avec d'autres associations, principalement supportées par l'Albil. Et cette identification des habitats précaires, après, permet de, entre nous aussi, de, surtout avec Médecins du Monde, de se mettre d'accord un peu sur qui va où, d'évaluer si les gens ont besoin, si on demande, si elles sont d'accord pour qu'on revienne, évidemment. Si c'est pas le cas.
Toujours basé sur le volontariat.
Bien sûr. Mais avec cette question, quand même, dans l'allée vert, de la non-demande, parce que les personnes sont en non-demande, elles demandent pas à être soignées.
Parce que soit elles savent pas, soit parce qu'elles ont peur.
Entre autres, je dirais pas qu'il y a que ces deux possibilités là, mais oui, entre autres, ça peut être ça. Et l'enjeu, c'est d'aller proposer du soin à des personnes qui n'en ont pas demandé, mais qui peut-être, en fait, dans d'autres circonstances, leur auraient demandé. Mais avec quand même le risque de se tomber sur des personnes qui n'ont rien demandé, qui savent très bien pourquoi et qui n'ont pas du tout envie d'avoir de soins. C'est un équilibre quand même assez, assez délicat.
Tu funambule.
Ouais.
Tu vois d'autres...
Non. Ah, j'essaie de... Parce que moi, je connais assez bien le fonctionnement.
Ouais.
On a pas... Il va passer beaucoup de temps.
Ah, toi, t'y allais,
ouais. Oui, oui, ouais. Que ce soit pour mes problèmes perso, et puis aussi pour accompagner des collègues qui, justement...
Des prescripteurs, en fait.
Oui, non, mais c'est pas ça, mais non, même quand ils ont l'adresse, ils savent où aller, si on les accompagne pas, ils y vont
pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Voilà, comme le camarade que j'ai accompagné l'autre fois, bon, bah, il serait jamais venu s'il m'avait pas accompagné.
Ouais, bah, c'est un côté rassurant aussi, si tu dis, bah, je t'accompagne. Ouais. Ouais.
Donc,
tu te fais faire le premier pas. Bon, ben, j'ai bien d'autres choses que tu voulais parler de nous dire sur la passe ou...
Non, mais juste pour rebondir sur ce que vient de dire David, effectivement, il y a ce côté de lien et d'accompagnement global, je pense, c'est important. Alors, David, c'est un fidèle, mais... Mais c'est pas le cas de tout le monde, enfin, évidemment qu'il y a probablement des tas de personnes déçues de l'accompagnement qui se fait à la passe, mais quand même dans cette idée de créer la confiance et d'être là de façon globale, de travailler en équipe, c'est ça aussi qui permet pour une même personne, mais aussi pour l'entourage, par le bouche à oreille, de générer ce climat de confiance qui va donner envie de venir à la passe, ce qui n'est pas forcément rien, parce que je ne suis pas à cette place-là, hein, je ne vais pas parler au nom des autres personnes, mais je suppose en tout cas quand on est à la rue, en situation de grande précarité, et qu'on sait, enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils ont des problèmes de santé potentiellement graves, ben, franchir le cap d'aller dans un centre qui est rattaché à un hôpital.
Oui, ben, pour certaines personnes, ça peut nécessiter dans leur esprit, je sais que par exemple, je souffre, j'ai mal au ventre, etc. Enfin, j'ai des douleurs, ça va nécessiter peut-être une hospitalisation, ça va prendre des cachets, etc. Est-ce que là, par exemple, au niveau de... Un simple traitement, est-ce que vous fournissez les médicaments? Comment ça se passe? Parce que les personnes, si elles n'ont pas de couverture CMU ou si elles doivent être hospitalisées, est-ce que c'est pris en charge?
Oui. Alors c'est vrai que c'est la base du fonctionnement que je n'ai pas expliqué du coup. L'idée de base, c'est de prodiguer des soins pour les personnes qui n'ont pas de couverture sociale. Parce qu'il y a des personnes qui ne correspondent pas aux critères, souvent pour des questions de délai, de présence
Sur le territoire,
ou qui n'ont pas fait les démarches, aussi très fréquemment. Donc il y a ça, et puis par extension, c'est toutes les personnes qui sont éloignées du soin, ou qui sont en difficulté d'accès aux soins. Donc vient se mêler à cette problématique administrative, la précarité du fait de la vie à la rue, la barrière de la langue, des personnes qui ne savent pas lire, c'est plus simple, des personnes qui ne parlent pas du tout français, mais qui savent lire et écrire dans leur langue et qui ont un alphabet latin, donc c'est tout de suite plus facile. Toutes ces problématiques-là intriquées, les problématiques de santé mentale évidemment. Donc la base, elle est Et c'est vrai, c'est toutes ces personnes-là, beaucoup quand même, hein, une majorité, n'ont pas de droit de sécurité sociale, qui sont en train de faire. Donc l'idée, c'est de pouvoir leur dispenser les soins, en tout cas qui sont les plus urgents, et les plus urgents, les plus importants, dans un premier temps. Et dans ces soins-là, ça comprend le suivi médical, mais aussi la délivrance des médicaments, qui se fait par la pharmacie de l'hôpital, et l'accès au plateau technique de l'hôpital en fonction de l'urgence. On essaye de différer ce qui semble moins urgent, mais de, par contre, si on a besoin d'un examen, ouais, c'est important pour le patient.
Ou même pour vous, pour faire un diagnostic, tu vois.
Oui. Là, parfois, on essaye de faire le diagnostic sans examen. Ouais. Mais si on pense que c'est urgent, parce que ça peut impliquer une prise en charge urgente qui va changer le pronostic, on fait l'examen et on a un budget dédié pour ça.
D'accord.
Voilà. Par rapport à la barrière de la langue, c'est une question qui revient souvent aussi. On a accès à des interprètes par téléphone, une agence d'interprétariat, donc on appelle, on a un budget aussi pour ça. Et on a la traduction par téléphone. C'est assez challengeant parfois. Parfois, voilà, parler avec une traduction sans avoir le visuel, la gestuelle pour le traducteur, c'est compliqué, avec en plus une barrière culturelle, des gestes qui ne sont pas les mêmes, une sur la maladie qui n'est pas la même. C'est parfois très compliqué.
Même déjà, des fois, les problèmes de traduction, enfin, la difficulté de traduire exactement
Mais quand tu n'as pas la personne chair en os en face de toi, c'est compliqué.
Tout à fait.
On fait beaucoup de choses avec le regard. Bon, maintenant, on a les masques en plus, donc on est encore plus entravé même. Mais avec la gestuelle, le non-verbal, on fait énormément de choses. Mais bon, ça reste quand même beaucoup, beaucoup plus confortable d'avoir l'interprète au téléphone.
Bah oui, de toute façon, c'est nécessaire.
Ouais.
Pour certains cas. J'avais une question, moi, par exemple, la personne qui vient, qui a des chiens, est-ce qu'elle peut venir avec ses chiens ou... On a toujours un peu dans les gens qu'on rencontre, en fait, on a toujours si t'as un animal, est-ce que il y a certains, non, tu rentres pas si t'as un animal, etc. Est-ce que là, si la personne vient, bon, elle a un ou deux chiens, est-ce que...
C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est une problématique super fréquente à l'hôpital, en tout cas pour les personnes hospitalisées. Alors, si je dis pas de bêtises, les chiens ne rentrent pas dans la place.
Je crois pas. Hein.
Mais souvent, ils essayent de... Comme on n'est pas en hospitalisation, ce qui se passe souvent, c'est que les chiens sont gardés par un ami, un collègue. On essaye un peu de faire comme ça. Mais c'est vrai qu'assez souvent, il y a la deadline du chien qui est resté 4 heures avec le collègue. Il faut le récupérer et ça urge. Il y a ce problème-là.
D'accord. Ouais. Question.
Le temps peut être assez long à la place. On a souvent beaucoup de retard, les gens attendent assez longtemps. Ça c'est aussi, je pense, un frein.
Oui, c'est vrai.
Tu es d'accord?
Clairement, le collègue que j'accompagnais le jour, si je ne pas.
Il serait
toutes
parti.
Les deux minutes, il voulait partir. Hein. Non, tu bouges pas, t'attends.
On va dire dans le système hospitalier classique, moi je vois par rapport à ce que je connais aussi, c'est vrai que tu as rendez-vous à 10h, c'est rare que tu passes à 10h. Il faut faire avec, tu le sais, donc tu rentres.
Je sais pas, moi j'ai pas trop cette expérience là non plus. Dernièrement, les rendez-vous que j'ai eu pour des différents examens, j'arrivais un peu en avance et comme la personne avant n'était pas présente, je passais même en avance. Donc, bon, après, ça c'est.
Dans l'ensemble,
peut-être que j'ai de la chance.
Après, la passe, c'est un peu différent. Comme on a beaucoup de choses à aborder en consultation, on n'a pas la possibilité de recevoir souvent les gens. Du coup, on aborde aussi d'autant plus de choses dans une même consultation, que ça met du temps. Et en plus, il y a des personnes sans rendez-vous, mais avec des problèmes urgents qui viennent s'intercaler. Donc, il faut gérer énormément de choses à la fois. Enfin, clairement, on n'a pas assez de moyens, pas assez d'effectifs personnels par rapport à la demande qu'il y a sur Lyon. Il devrait y avoir beaucoup plus de passes.
Effectivement, il y a un médecin qui n'est pas dédié à la passe, c'est ça. Hein.
Comment ça?
Vous n'êtes pas tous entièrement dédiés à la passe, il y en a qui travaillent aussi à côté.
Parmi les médecins, on est toutes et tous à temps partiel. J'ai une petite activité, toute petite, libérale en ce moment. J'ai un collègue qui est urgentiste à côté.
Ok.
Deux collègues même, qui sont urgentistes à côté. Ça dépend. D'accord. Et à temps partiel.
D'accord. Et là, par exemple, pour les médecins qui viennent à la PASS, c'est sur une volonté personnelle, enfin je veux dire c'est un acte entre guillemets, vous êtes, je sais pas, c'est Saint-Joseph qui vous dit vous allez à la PASS.
Non, c'est, non, c'est une volonté, c'est une volonté personnelle. Et j'ai l'impression que, en tout cas, d'ailleurs en ce moment c'est, c'est avec plaisir entre guillemets.
Oui, ouais, j'imagine. Ça, d'accord, non mais il n'y a pas un planning par exemple du chassure en disant bah, tel médecin aujourd'hui, tu vas là.
C'est pas contraint, c'est pas contraint du tout. Okay. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à ce que, pour revenir sur le temps qui est assez long, parfois ça peut être un frein, principalement pour les personnes de la rue, notamment qui font la manche. Parce que attendre 3 heures dans une passe, c'est 3 heures de manche en moins. Pour des personnes qui consomment des produits et qui ont besoin de faire la manche pour acheter le produit, c'est compliqué aussi. Non seulement il y a l'attente sans le produit, et en plus il y a moins d'argent parce que moins de manches. Ça c'est une problématique. Mais ça reste mieux parce que ça reste mieux que les urgences.
Oui, tout à fait.
C'est quand même un moyen de chanter les urgences. Oui. Là c'est 8 heures d'attente et l'accueil est moins.
Il est peut-être moins.
C'est agréable, et c'est pas pour rejeter la faute sur les collègues, mais c'est que l'organisation fait que...
Le volume fait que...
Le volume, la pression, le manque de moyens.
Et une personne qui vient vous voir, qui est en addiction, alcool, drogue, etc., vous gérez ou...
Non, un suivi, un concret suivi addictologique, on l'oriente vers une structure adapté comme un XAPA parce qu'on n'a pas d'expertise à ce niveau-là et je pense que c'est important de ne pas vouloir tout faire dans une passe parce que sinon on perd en organisation. Mais par contre, oui, dans le sens du soin primaire, de la porte d'entrée, on peut être souvent les premiers à accueillir une demande par rapport à une demande de sevrage ou de réduction des risques sur des consommations. Sur déjà la création de liens, de confiance et après orienter dans un second temps vers une structure. Il peut y avoir un temps en fait qui se fait à la passe dans l'accompagnement avant que l'accompagnement se poursuive dans une structure.
D'accord. Là je parle des addictions, mais par exemple, si on prend un exemple au niveau dentaire, là vous aiguillez vers.
Ouais, là pour le coup on aiguille direct. Alors il y a une passe dentaire qui est rattachée aux urgences dentaires à Édouard Herriot.
D'accord.
C'est pour les urgences, hein, une rage de dents par exemple. Mais il y a une passe dentaire et puis sinon.
Il n'y avait pas loin un truc dentaire là vers rue de Marseille, non? Il n'y avait pas.
Ouais, c'est...
Ouais. Ils ne produisent pas des soins aussi pour des personnes qui sont. Non.
Alors, c'est place de Perret au niveau de l'arrêt de tram université.
Ouais.
Juste là.
Ouais, c'est vrai, je suis pas loin en fait.
Ouais, juste à côté. Ouais. Là, c'est le centre de soins dentaires. En fait, il y a des étudiants, étudiantes dentistes qui travaillent et qui sont supervisés par leurs profs professionnels. Et il faut être affilié à l'assurance maladie quand
d'accord.
même.
D'accord, attends, tu peux pas venir si t'es pas.
Voilà, mais par contre, une fois que t'es affilié, tu peux y aller gratuitement, enfin t'as aucun frais.
D'accord.
Donc on oriente beaucoup les gens.
Ça nécessite effectivement d'être en CMU, quoi, on va dire.
Ouais.
AME aussi,
oui. CMU, AME.
AME. Ouais. Bon, oui.
Et là aussi, ouais, récemment, là, puisqu'on parlait un peu des prises en charge annexes, notamment les dents, pour les yeux, là, depuis.
Oui, les yeux aussi, oui.
Plus, on a un collègue qui vient deux fois par mois, enfin, je sais plus exactement, mais dans cette ordre d'idée-là, pour faire des examens de vue et des lunettes gratuitement pour les gens.
Ah,
et c'est super, ça marche super bien.
D'accord.
Oui, j'ai vu ça, que ça a démarré là, dans les accueils de jour. Là, cette semaine, ouais, je crois que j'ai vu qu'il y avait des permanences déjà là. Notamment le Pays Saint-Vincent, dans la péniche, je crois qu'il va être présent aussi.
Ouais. Il y a beaucoup de gens qui s'habituent à vivre sans voir bien.
Oui. C'est-à-dire que la vue baisse progressivement, donc on s'en aperçoit pas. C'est comme l'audition.
Bah oui. Quand tu supposes, quand on est dans un parcours de grande précarité, on n'a pas forcément le temps de gérer tout ça. On sait, en termes de moyens aussi, pour les lunettes, c'est compliqué. Et du coup là ça marche super bien et il y a visiblement beaucoup de personnes qui ont besoin de, d'une correction et qui sont en jeu avec.
Parce que c'est vrai que si on prend la majorité, enfin une moyenne des gens effectivement qui sont en situation de précarité, c'est des gens qui arrivent autour de, on va dire autour de 50 ans, donc qui commencent à avoir la vision, qui posent problème. Quoi.
Oui.
Je dis pas ça parce que j'ai 57.
Ah, c'est que ça vit pas mal les yeux aussi à lire avec une bougie le soir.
Ah oui, c'est ça. Et là, on développe la vue de nuit aussi.
Oui.
Bon, bah, on a fait le tour.
Tu veux autre chose, Martin?
Non, pas comme ça me vient pas à l'esprit. Mais...
Bon, je pense qu'on a déjà bien balayé la passe, on va dire. Ben, merci en tout cas pour cet entretien.
Avec plaisir.
Et puis, ben, bonne continuation.
Merci à tous les deux aussi.
Merci. Ben, voilà. Ben, merci. Hein. Ça peut être...